Nous, élèves de 3e 4, avons rencontré Camille Silver, représentante de l'association L214.
Elle nous a parlé de sa façon de vivre en étant végane.
Ça fait 11 ans que L214 existe. C'est une association qui défend les animaux, mais qui se concentre surtout sur les animaux dits d'élevage, c'est-à-dire les animaux qu'on élève la plupart du temps pour produire la viande, mais aussi le poisson qu'on mange, les produits laitiers, les œufs, etc. C'est une association qui existe depuis 11 ans, qui agit dans toute la France et qui est quand même relativement importante aujourd'hui. On compte 34 000 adhérents. Alors, est-ce que vous savez ce que peut vouloir dire le nom L214? Ça fait un peu mystérieux, ça fait un peu code. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où ça pouvait venir? Non, il n'y a pas 214 bénévoles, on est plus près du 5-6 000 bénévoles peut-être. Donc,
Quand ça a été créé.
Non, quand ça a été créé, on était beaucoup moins nombreux. Non, c'est pas ça. En fait, c'est le nom d'un article de loi. C'est un article qui vient du Code rural, qui date de 71, qui dit que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Bon, ça a l'air un peu compliqué. En gros, les impératifs biologiques, ça va être les besoins des animaux. Ce que veut dire cet article de loi, ça veut dire que chaque animal, puisqu'il est sensible, a besoin de vivre dans un environnement dans lequel il puisse accomplir ses besoins. Ça va être par exemple manger, boire, avoir assez d'espace, ça va être aussi avoir de la santé, pouvoir être près de ses congénères pour pouvoir avoir des relations avec eux, des relations d'amitié ou autres, des relations familiales. Ça va être aussi pouvoir être soigné et être dans des conditions d'hygiène qui sont dignes. Alors, qu'est-ce qui nous a intéressé, nous, dans l'association, par rapport à cet article de loi en particulier? Eh bien, c'est la notion d'être sensible. En fait, on s'est dit, pourquoi on peut vouloir défendre les animaux? Est-ce qu'il faut défendre les animaux parce qu'ils sont intelligents? On sait aujourd'hui que certains animaux sont intelligents. Est-ce qu'on peut vouloir défendre les animaux parce que ce sont des êtres qui ont des émotions? Ça peut être ça aussi, mais toutes les espèces ont pas, ressentent pas les mêmes émotions. On s'est dit que vraiment ce qui était au cœur de la démarche, c'était la notion de sensibilité. C'est parce que les animaux peuvent souffrir qu'on doit les défendre. C'est ça qui est vraiment important pour nous. Alors, si on parle de mon parcours personnel, eh ben, en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez engagé. Je pense que c'est quelque chose qui m'a été transmis déjà par ma famille. Quand j'étais jeune, on m'emmenait, par exemple, voter, et je trouvais que c'était très, très important. J'ai toujours eu vraiment à cœur l'idée qu'on pouvait peut-être, chacun à son niveau, participer à la société et essayer de l'améliorer. Et j'ai aussi été rapidement engagée par rapport à l'éducation. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire, au début, le plus beau métier du monde. À votre avis, qu'est-ce que je faisais? J'étais professeur de français dans un collège très similaire à celui-ci. Et justement, comme c'était un engagement, c'est un engagement que j'ai porté aussi dans la vie associative. Je me suis dit, bon, c'est mon travail d'apprendre des choses à des personnes qui sont plus jeunes, mais peut-être que je peux essayer d'aller encore plus loin. Et c'est là que j'ai commencé à être bénévole, c'est-à-dire que j'ai été dans des maisons de la vie associative où j'ai fait de l'aide aux devoirs pour des enfants qui avaient peut-être un peu plus de mal que d'autres dans les milieux scolaires. Et donc c'est là que j'ai commencé du coup à être quelqu'un d'engagé, à être quelqu'un qui essayait d'apporter quelque chose à la société. Et ça me prenait pas mal de temps par semaine, mais j'aimais beaucoup ça. Et un jour je me suis dit, bon tiens, je fais ça pour les humains, je fais ça pour des humains de différentes tailles, hein. Je donnais des cours à des adultes, je donnais des cours à des plus jeunes. Mais je me suis dit, peut-être qu'à mon niveau, je pourrais aussi aider les animaux, pourquoi pas. Enfin, si j'ai la place pour, j'ai le temps. Autant essayer de le faire. Au début, j'ai pas forcément pensé aux animaux d'élevage, j'ai pensé aux animaux domestiques, les chats, les chiens, etc. Vous savez que les animaux domestiques, ils sont face à des problèmes, en fait, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'abandon, etc. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à être engagée pour les animaux. Je suis devenue famille d'accueil pour chats. Et ben, c'est quelqu'un qui, par l'intermédiaire d'une association, va prendre un animal abandonné chez soi, le temps de lui trouver une famille qui va l'adopter pour la vie. Donc j'ai recueilli jusqu'à aujourd'hui environ 18 chats, je pense, depuis que j'ai commencé à faire ça. Pas en même temps, hein, l'un après l'autre. Ils viennent chez moi, je les soigne, et ensuite ils se font adopter. Et donc je fais ça par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Sans Croquettes Fixes. C'est une association que j'avais choisie parce qu'elle aidait aussi les humains. Elle aidait aussi les humains qui étaient en difficulté financièrement pour prendre soin de leurs animaux. Et ça, c'était pour moi une super expérience de la vie associative. Et un jour, j'étais dans la rue et je suis tombée sur des militants d'une autre association. Et en fait, eux, ils ont commencé à me parler des animaux d'élevage. Ils m'ont dit que c'était important de faire attention aux animaux d'élevage, que c'était important de réduire sa consommation de viande, c'était important de réduire sa consommation de lait et d'œufs. Et moi, je leur ai dit, wow, je mange de la viande en fait, je pense que c'est naturel, je pense que c'est nécessaire, etc., etc. Et eux m'ont parlé un peu d'alimentation végétale. Et bon, j'étais pas trop réceptive en fait. Et puis après, ils m'ont dit un truc qui m'a un petit peu fait un déclic. Et je voudrais vous poser la même question et je vous la pose sous forme de quiz. J'espère que ça vous va. On parlait à l'instant des animaux qui sont domestiques. Vous savez que ces animaux, les chats et les chiens, ils sont face à des problèmes et notamment ils sont souvent abandonnés. Lorsqu'ils sont abandonnés et qu'ils ont de la chance, ils sont récupérés par des refuges pour animaux. Je me demandais, à votre avis, combien d'animaux sont accueillis par les refuges chaque année en France ? C'est 95 000. Et encore, c'est la fourchette basse, parce que les dernières années, c'était plus proche de 100 000, 110 000 animaux qui étaient abandonnés chaque année en France. Et je me suis dit, ben, c'est énorme. Et heureusement qu'il y a des personnes qui aident ces animaux-là dans les refuges ou en étant famille d'accueil. Et ensuite, cette personne que j'ai croisée dans la rue m'a posé une autre question. Ils m'ont dit, à ton avis, combien d'animaux sont tués dans les abattoirs français chaque jour ? Chaque jour en France, il y a 3 millions d'animaux qui sont tués dans les abattoirs. Et c'est énorme, c'est un chiffre tellement grand qu'on peine à se l'imaginer. Imaginez si 100 000 chats et chiens sont abandonnés chaque année en France. 3 millions d'animaux d'élevage par jour. Donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux faire quelque chose déjà ? Parce que si ça se trouve, il n'y a rien que je puisse faire. J'ai commencé à penser aux animaux en général. Est-ce que c'était vraiment normal ? Est-ce que c'était plutôt légitime de faire une différenciation entre les animaux ? En gros, pourquoi je vais faire attention à certains animaux et pourquoi je ne vais pas me préoccuper d'autres animaux ? Pourquoi je fais attention aux chats et aux chiens et pourquoi au contraire je ne fais pas attention aux vaches, aux cochons, aux moutons, etc. J'ai pensé à la liberté, j'ai pensé à ce que c'était... à l'idée que je me faisais de la justice, j'ai pensé au rapport que ça pouvait avoir avec la nourriture, vu que ces animaux, ces 3 millions d'animaux qui meurent chaque jour dans les abattoirs, et ben, ce sont des animaux qu'on élève pour manger. Et quand j'ai pensé à la liberté, je me suis aussi demandé comment on imaginait qu'ils étaient ces animaux d'élevage. Si vous allez à la campagne, vous voyez souvent ce genre de bâtiments, ce sont des hangars qui sont fermés avec des silos sur les côtés. Et en fait, ce sont des élevages d'animaux, des élevages intensifs. Les animaux passent toute leur vie dedans. Ils ne voient jamais la lumière du jour. Généralement, ils sont vraiment entassés les uns sur les autres. Et c'est une vie qui est extrêmement difficile. En fait, si on veut regarder des chiffres pour les animaux, par exemple, pour les cochons, ça va être 95% des cochons qui sont élevés en élevage intensif. Donc c'est énorme. Si on regarde les lapins, c'est 99% des lapins qui sont élevés en élevage intensif. Les poules, c'est 68% qui sont élevés en cage. Mais ça veut dire qu'il y a aussi un pourcentage qui est élevé, pas en plein air, mais au sol, toujours dans les bâtiments, dans les hangars. Et pour les poulets dits de chair, c'est-à-dire les poulets qui sont élevés pour leur viande, c'est 80%. Donc évidemment, ce n'est pas toute la production, mais l'écrasante majorité des animaux qui sont élevés aujourd'hui en France sont élevés en intensif. Il y a même des animaux pour lesquels il n'y a aucune autre filière. Tous les animaux sont élevés en intensif. C'est le cas par exemple pour les cailles, qui sont des petits oiseaux, qu'on élève à la fois pour leur viande et pour leurs œufs. Et du coup, j'ai commencé à me demander ce que je pouvais faire à mon échelle d'individu, comment je pouvais agir. Et la première manière d'agir, forcément, c'était par l'alimentation. Mais moi, comme tout le monde, je viens d'une famille qui mange de la viande, du poisson, qui mange des produits laitiers, qui mange des œufs, et ça me semblait super compliqué. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire attention aux labels. C'est-à-dire, quand j'ai acheté justement de la viande ou des œufs, je faisais attention à ce que ça ne vienne pas d'un élevage intensif. Pour les œufs, il y a un moyen très très facile de savoir d'où ça vient, c'est le code qu'il y a sur la coquille. Il ne faut pas faire attention à l'emballage, parce que des fois vous avez des emballages avec des poules en plein air, et quand vous ouvrez, sur l'œuf il y a un code 3 ou un code 2, ça veut dire qu'elles ont été élevées en bâtiment. Si c'est un code 3 sur l'œuf, ça veut dire que les poules ont été élevées en cage. Si c'est un code 2, c'est quand elles ont été élevées au sol. Code 1, élevé en plein air, et code 0, plein air et bio. Donc la première chose que j'ai fait dans mon alimentation, c'est que j'ai favorisé l'élevage bio, l'élevage plein air. Et après, je me suis dit, il y a plusieurs trucs. C'est que bon, ces animaux, de toute façon, c'est vrai qu'ils finissent quand même à l'abattoir. Et j'ai pensé aussi, aujourd'hui, étant donné le nombre de personnes qu'on est, on ne peut simplement pas nourrir toute la population française avec de l'élevage extensif, l'élevage bio. Alors j'ai commencé à réduire ma consommation de viande. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du lundi vert. Non ? C'est une initiative qui a été lancée début janvier. Elle a été signée par 500 personnalités et scientifiques. Et ils demandent aux gens de ne pas manger de viande et de poisson le lundi. Ben ça, vous voyez, par exemple, ça ressemblait un petit peu à ce que j'ai fait au début. Après, j'ai commencé, c'était une période où je me renseignais beaucoup, je lisais pas mal, je regardais pas mal de documentaires. Et j'ai commencé à me dire que j'allais ben, finalement peut-être arrêter de manger de la viande et des œufs, et du poisson. Et je suis devenue végétarienne. Et après, ben, finalement, j'ai changé mon alimentation, j'ai aussi arrêté de consommer des œufs et des produits laitiers. Et je suis devenue ce qu'on appelle quelqu'un de vegan, c'est-à-dire quelqu'un qui ne consomme pas de produits d'origine animale dans la vie. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain. J'ai arrêté petit à petit. Du coup, la première partie de mon engagement, ça a été un engagement, si on veut, personnel. J'ai arrêté de contribuer à l'élevage et j'ai surtout, pendant cette période-là, je me suis beaucoup informée. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté d'autres personnes qui pensaient différentes choses. Je me suis vraiment renseignée. Et puis après, je suis arrivée à un moment où je me suis dit que peut-être je pouvais essayer de faire plus. De la même manière que j'avais voulu aider les gens quand je m'étais impliquée dans la vie associative, je me suis dit que j'allais faire pareil, mais cette fois pour les animaux. Alors la première étape de ce cheminement-là, c'est que j'ai choisi une association. Des associations qui luttent pour les animaux, qui défendent les animaux, les droits des animaux, il y en a plusieurs. Et j'ai choisi L214 pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était une association qui défendait les animaux d'élevage, donc c'était la cause qui m'intéressait. Mais aussi parce qu'il y avait plusieurs valeurs qui m'intéressaient dans cette association en particulier, comme par exemple la bienveillance. J'avais l'impression aussi que comme c'était une association assez grosse, on avait vraiment le pouvoir de faire des choses. C'est pour ça que j'ai commencé à être bénévole pour L214, donc dans l'antenne de Lyon, puisque j'étais à Lyon. Alors L214, c'est une association qui a des antennes de bénévoles partout en France. Il y a aujourd'hui plus de 50 groupes partout en France. Donc vous en avez, il y en a un à Grenoble d'ailleurs, aussi. Et c'est pour ça aussi que c'était rejoindre un groupe, c'était finalement la manière la plus évidente, la plus facile de commencer à militer pour les animaux, de commencer à parler des animaux aux autres personnes pour voir si d'autres personnes étaient prêtes à s'engager pour eux d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs actions possibles. On peut par exemple tracter. Alors tracter, ça veut dire en gros distribuer de la documentation dans la rue, de la documentation qui va concerner l'impact, par exemple, de l'élevage sur le réchauffement climatique, mais aussi la viande, le lait, les œufs, comment on peut changer son alimentation, comment on peut transformer ça, pourquoi s'engager pour les animaux, etc. Au début, j'étais un peu timide, j'avais un peu d'appréhension avec ça, et finalement, c'était assez intéressant. Et puis, en même temps, comme on est toujours un groupe de personnes, on rencontre comme ça d'autres personnes, et on a dans la rue des conversations qui peuvent être très intéressantes. Et du coup, ça, c'était plutôt pas mal parce que j'ai rencontré des gens qui me disaient, qui n'étaient pas d'accord avec moi ou qui avaient un argument. Et du coup, après, si je n'avais pas la réponse, je rentrais chez moi et je faisais des recherches pour comprendre un peu cet avis. Du coup, voilà, tracter, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans un groupe de bénévoles? On peut faire des dégustations. Alors nous, on organise par exemple des dégustations de nourriture végétale pour montrer que la nourriture végétalienne, ça peut être tout aussi bon que la nourriture qui n'est pas végétalienne. Donc ça, au-delà du fait que ce soit assez drôle comme action à mener pour les militants, c'est aussi une manière pour nous de dépasser la barrière des préjugés, parce qu'il y a toujours beaucoup de préjugés qui entourent la nourriture. Donc qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des tractages, on fait des dégustations, on va aussi tenir des stands. Voilà. Tenir un stand, ça nous permet de montrer de l'information, ça nous permet aussi de vendre, par exemple, des livres qui vont permettre aux gens de s'éduquer. On peut aussi animer ou organiser des conférences. Organiser des conférences, c'est une très bonne manière de s'engager pour les animaux et de donner de l'information. On peut aussi organiser des actions coordonnées. Eh bien, on se coordonne, tous les groupes de bénévoles en France, donc qui sont 50 aujourd'hui, pour faire la même action sur un même thème en même temps, partout en France. Alors qu'est-ce que ça a comme impact? Eh bien ça a comme impact que les médias, les journaux, la télé, la radio, etc. vont venir, vont nous tendre le micro, vont nous demander pourquoi on est là, et ça nous donne l'occasion de nous exprimer. Ces actions coordonnées, il y en a à peu près une par mois et à chaque fois, elles portent sur un thème différent. Encore samedi dernier, on en a fait une sur le thème des poissons. J'aurais pu aussi vous parler d'une démarche L214 qui s'appelle Vegoresto. Ça va être une démarche de notre association. On va vers les restaurateurs qui ne proposent pas encore de menu végétal à la carte et en fait, on les met au défi de le faire. On leur lance le défi de proposer un menu entièrement végétal. Et généralement, les restaurateurs, ils aiment bien parce que c'est un challenge pour eux. Donc, ils font le menu végétal, ils le gardent le temps d'une soirée. Et si ça marche, s'ils se sentent à l'aise avec, et bien comme ça, ils peuvent garder ce menu végétal à la carte. Et ça a plein d'avantages, notamment pour les animaux, évidemment. Du coup, ben moi, j'ai été bénévole pendant très longtemps. Et m'engager pour les animaux comme ça, ça m'a apporté plein de choses. Je me suis dit, puisque ça prend tellement d'importance dans ma vie, pourquoi je n'essaierais pas d'en faire mon métier ? Et j'ai commencé à regarder quand il y avait des offres d'emploi pour L214 et jusqu'à ce que je trouve une offre d'emploi qui me correspondait très bien puisque c'était pour une partie de l'association qui s'appelle L214 Éducation. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je mets au point des outils pédagogiques pour parler des animaux et pour parler de l'élevage et de l'impact de l'élevage sur l'environnement aux plus jeunes. Quand je dis aux plus jeunes, ça va de la maternelle à, dans les faits, à l'université. Donc, en gros, une grande partie de mon travail, ça va être de mettre en place ces outils-là. Une autre partie de mon travail, ça va être de faire des interventions. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes compétences professionnelles pour les mettre, pour en faire, disons, une manière de m'engager pour les animaux. Et du coup, maintenant, c'est ce que je fais à 100% de mon temps. Quoi. Je me dédie entièrement à cet engagement pour les animaux.
Y a-t-il des risques à devenir végane et y a-t-il un risque de malnutrition ?
Aujourd'hui, les plus grandes associations de nutrition dans le monde, à savoir celles des États-Unis, du Canada, d'Australie, d'Allemagne, etc., s'accordent à dire qu'être végétalien, c'est-à-dire être végane au niveau de l'alimentation, c'est OK au niveau nutrition. Si c'est équilibré, un peu comme lorsqu'on mange de la viande, si vous mangez que des kebabs tous les jours, vous allez forcément être dénutri. Bah, de la même manière, lorsqu'on est végétalien, il faut équilibrer son alimentation, notamment à base de légumineuses céréales, mais aussi avec des légumes, des fruits, des oléagineux. L'autre chose qu'il est important de savoir, c'est que si on est strictement végétalien, il y a un élément qu'on ne retrouvera pas dans sa nourriture, c'est la vitamine B12, qui est une vitamine qui est difficile à synthétiser. Donc les personnes qui deviennent végétaliennes à n'importe quel âge de leur vie, donc que ce soit lorsqu'ils sont tout petits ou lorsqu'ils sont âgés, doivent faire attention à se supplémenter en vitamine B12. La vitamine B12, on la trouve sous plein de formes différentes en fait. Généralement, c'est des petits bonbons à croquer. Ça peut être tous les jours ou ça peut être une fois par semaine. Mais il faut savoir aussi que la plupart de la B12 qui est produite aujourd'hui dans le monde, elle est en fait inclue directement à la nourriture des animaux d'élevage. Parce que pas mal de ces animaux qui sont élevés pour notre consommation alimentaire, ce sont des animaux omnivores, comme les cochons, les poulets, par exemple. Et donc, ils n'ont pas assez de nutriments avec simplement les végétaux qu'on leur donne. Donc, la nourriture qu'on leur donne contient déjà de la vitamine B12, qui après, nous parvient lorsqu'on consomme ces animaux.
Vous avez dit au début que vous avez recueilli plusieurs chats. Et dans ces chats-là, vous n'avez pas... envie d'en garder un, enfin...
Ça m'est arrivé, effectivement, dans deux cas, j'ai adopté deux des chats qui étaient chez moi, parce que j'avais pas le cœur de les laisser partir, mais oui, ça m'est arrivé.
Si vous protégez des animaux qui sont à la base carnivores, comment vous faites pour les nourrir ?
Tous les animaux domestiques qu'on a ne sont pas strictement carnivores. Les chiens, par exemple, ont une alimentation omnivore. Mais pour les chats, il existe notamment une alimentation végane, en fait, qui est supplémentée en taurine. Les chats, effectivement, sont des carnivores stricts, c'est-à-dire que contrairement à nous, ils ont besoin de consommer de la viande pour être en bonne santé. Et donc, déjà dans les croquettes de supermarché, à la base, on retrouve plein d'aliments que les chats ne consommeraient pas, disons, normalement, entre guillemets. Les croquettes véganes pour chats, elles sont supplémentées en taurine.
Quel est l'âge minimum pour intégrer cette association ?
Il n'y a pas d'âge minimum pour intégrer cette association. Il n'y a même pas vraiment de montant minimum pour payer l'adhésion. C'est-à-dire que souvent, une adhésion à une association, ça va coûter 20-30 euros. On peut adhérer à L214 à partir de 1 euro parce qu'on pense que c'est quelque chose, l'engagement pour les animaux, ça devrait concerner, enfin, tout le monde pourrait devraient pouvoir s'impliquer.
Avez-vous des contacts avec certains ministres pour faire avancer vos idées ou vos projets et proposer des lois ?
Tout à fait. Alors, agir auprès des responsables politiques, c'est hyper important parce que simplement, c'est eux qui vont faire passer les lois. On a même carrément un observatoire des décisions prises par les responsables politiques. Ça s'appelle Politique et Animaux. Et si vous allez sur Politique et Animaux, vous savez exactement quelle prise de position votre maire, votre député, votre ministre, votre président a pris pour les animaux d'élevage, pour les animaux à fourrure, pour les animaux de laboratoire, de compagnie, etc. Donc on a plusieurs contacts avec effectivement des personnes qui sont situées sur l'échiquier politique.
Pourquoi choquer les consommateurs avec des vidéos de maltraitance dans les abattoirs ?
Alors, on ne cherche pas à choquer les consommateurs par des vidéos de maltraitance. Nous, notre slogan, et j'aurais dû le dire, c'est ouvrir les yeux sur l'élevage et l'abattage des animaux. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est montrer la réalité de ce qui est vécu par les animaux dans les élevages et les abattoirs. C'est vrai que souvent, les images qu'on dévoile de cette manière, elles sont très violentes, mais c'est pas le fait de... Enfin, c'est pas notre fait, c'est pas notre volonté de choquer les gens. C'est juste que cette réalité à laquelle on s'intéresse, c'est une réalité qui est d'une extrême violence.
Y a-t-il des statuts hiérarchiques dans cette association ? Si oui, lesquels ?
Eh bien, on a une présidente, une directrice, Brigitte Gauthier. Et effectivement, après, le reste de l'association est divisé en pôles et en équipes. En revanche, c'est vrai que dans l'association, on a très à cœur de maintenir l'égalité entre les personnes. Donc même s'il y a une hiérarchie au niveau de la prise de décision, on est par exemple une association qui a le salaire unique, c'est-à-dire qu'on est tous payés pareil, que ce soit la directrice de l'association ou les personnes qui vont travailler à recueillir les dons, par exemple. On a l'égalité au niveau des salaires.
Merci beaucoup.
Merci à vous.